Devant moi, je n'ai pas un triste prêtre, mais plutôt un prêtre très joyeux. Père Philippe Valin, vous venez de l'oratoire de Philippe Néry.
Oui, je viens de l'oratoire de Philippe Néry, qui est un saint de la joie et de la joie de l'Esprit Saint et qui donne le cœur spacieux. Il y a une chose de Philippe Néry qu'on ne sait pas beaucoup. Philippe Néry a reçu l'Esprit Saint dans son cœur qui a fait exploser ses côtes au sens physique, au sens anatomique. On a vérifié ça après sa mort. Et il y avait deux effets, disons, bien mesurés par les gens de son entourage. C'est d'une part qu'il avait très chaud, même en plein hiver, et qu'il prenait les gens dans ses bras pour les réchauffer, surtout les pêcheurs, pour les consoler. Et puis qu'il était toujours joyeux. Et on sentait le fervorino, la chaleur de l'Esprit-Saint qui venait de lui. L'âme spacieuse, avoir le cœur spacieux, large et qui accueille les autres. C'est quelque chose de Philippe Néry que j'admire d'une part et puis qui me donne envie. Et c'est ce que nous essayons de vivre dans notre maison de Nancy, puisque l'oratoire auquel j'appartiens, c'est l'oratoire de Nancy.
Qu'est-ce qui vous a attiré davantage dans la figure de Saint Philippe Néry?
Ce que j'aime encore beaucoup, parce que c'est un travail du charisme en nous, entre nous, etc., c'est le désir qu'il a eu, à peu près au moment du Concile de Trente, de faire que les laïcs soient réellement désireux d'une vraie sainteté. Il s'est dit, nous avons affaire à toutes sortes de gens qui sont des baptisés, qui vivent en famille, dans une vie assez ordinaire. Il aimait les boutiquiers, il aimait aller compter les feuilles de cuir chez les cordonniers, etc. De sorte qu'il s'est intéressé à une sainteté qu'on découvre, qu'on cultive, qu'on recherche dans une vie totalement ordinaire. Et Philippe Néry a reçu à l'oratorio, à la Chiesa Nuova ensuite, à la fin, un prince romain assis à côté de son cordonnier, assis à côté d'une femme, quelquefois d'une femme mystique, et puis toutes sortes de gens dans toutes sortes de conditions, mais qui étaient des baptisés.
Vous parlez de la sainteté des laïcs comme quelque chose qui doit être aujourd'hui aussi très actuel, et vous venez d'être nommé comme membre de la commission théologique internationale. Il n'y a pas un trop grand décalage entre la sainteté des laïcs et des boutiquiers et puis là-haut au Vatican. Comment vous trouvez l'équilibre entre ça?
Moi, je suis très content de cette question, de cette interpellation, parce que déjà, un oratorien, à côté du ministère qu'il accomplit, c'est le travail pour moi de la théologie dogmatique à la faculté de théologie de Strasbourg, essentiellement. À côté de cela, il doit rester le frère des prêtres de son oratoire, faire avec eux la vaisselle, les courses, donc avoir une vie absolument ordinaire. Ça prend du temps, mais c'est bien. C'est le moyen de rester toujours proche du cœur des autres et de l'esprit des autres. Et puis nous avons à l'oratoire de Nancy un certain nombre d'activités. J'ai été longtemps responsable d'un groupe qui s'appelait les Amis Newman, comme John Henry Newman, et c'est une chose à quoi je reste extrêmement attaché. Et puis, dans ce que vous dites, il y a un peu l'idée que la théologie serait élitiste. Et c'est curieux parce que finalement, en bon thomiste que je suis, en fils de saint Thomas d'Aquin aussi, au moins pour la théologie, je trouve que l'intelligence est la chose du monde la mieux partagée. Je dis souvent, il ne faut pas confondre l'intelligence avec l'habileté mentale. Il y a des habiles mentaux. La modernité adore l'habileté mentale. On peut être archi-spécialiste de quantité de choses qu'on ne réunit de toutes sortes de vérités très, très resserrées dans des impasses de la réalité sans qu'il y ait communication avec les autres.
Vous aimez beaucoup, Père Philippe Valin, la proximité.
Oui.
La proximité, ça se fait aussi à travers la culture. Comment joindre la théologie, la culture et la proximité?
Il faut dire que la proximité, le sens du prochain, c'est quelque chose que commande l'Évangile. Déjà, en choisissant la vie d'oratorien, j'ai choisi de vivre dans la même maison jusqu'à la mort, avec une dizaine de frères, bien sûr les plus âgés nous quitteront et puis les plus jeunes viendront, mais dans une famille. Et le défi de cette vie familière, de proximité, c'est de comprendre comment le Seigneur de toute l'histoire, de tout le cosmos, a un regard spécial sur le cœur de mon frère, comment il l'aime, comment il attend, lui, quelque chose du cœur de mon frère, de l'esprit de mon frère, de la personne de mon prochain, alors que moi, quelquefois, par agacement, par aversion, je n'aime plus mon frère. Et ça arrive dans la proximité d'une famille. Quand une épouse n'aime plus son époux ou croit ne plus l'aimer, il faut que le regard du Seigneur sur ce cœur qui a été choisi pour l'épouse ou ce cœur de l'épouse qui a été choisi pour l'époux, il faut que le regard de Dieu pénètre l'esprit et le cœur de chacun des deux époux, pénètre le cœur d'un frère qui vit en communauté. Et c'est comme ça, si vous voulez, que les vérités de Dieu universelles qu'on peut étudier en théologie, en fait, s'incarnent réellement et se mettent à l'épreuve d'une vie au quotidien, dans une promesse qu'on fait de vivre avec le prochain jusqu'à l'éternité. J'ai l'habitude de dire, vous savez, on ne se débarrasse d'aucune âme. Quand le discours sur la montagne nous commande d'aimer nos ennemis, c'est parce qu'on ne se débarrasse d'aucune âme. Les âmes sont immortelles, c'est de la pure métaphysique ça. Alors il faut s'embarrasser du prochain. Si on ne se débarrasse pas, il faut s'en embarrasser. Les gens qu'on aime le moins, c'est ceux qu'on aimera le plus. Les gens qui vous résistent, c'est ceux que l'Esprit Saint vous fera aimer le mieux. C'est l'expérience qu'on vit dans la vie communautaire. Alors voilà comment on passe de la vision universelle, de la théologie, au sens de la proximité. Et Dieu a fait comme ça.
Vous, Philippe Valin, vous avez fait quelle expérience de la proximité ?
L'expérience de la proximité de Dieu, peut-être c'est l'expérience de ma vie de foi. Je me souviendrai toujours de la journée de ma première communion. Je ne crois pas que j'étais tellement préparé à comprendre la grande chose qui allait se faire, mais j'y croyais. Je savais que c'était la majesté de Dieu était une chose que j'avais comprise, enfin aperçue, et que je vénérais à genoux comme petit garçon. Et du coup, j'ai vraiment compris en recevant le corps du Christ dans une journée qui restera sans doute la plus belle de mon existence, plus belle que le jour de mon ordination. Parce que finalement, le cœur d'un baptisé est ce qui intéresse le Seigneur d'abord. Le prêtre se met au service des baptisés. Il est choisi pour être mis au service. En tant qu'homme, moi, Philippe, j'étais un petit garçon et un enfant, toujours, qui doit s'ouvrir à la présence du Seigneur, à sa visite. Et après, ma prière a été beaucoup tournée vers l'oraison du Carmel, que j'aime beaucoup. Et je crois que cette proximité du Seigneur Jésus dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire vraiment être le tabernacle de l'Esprit Saint, être habité par lui, comme Philippe Néri, j'ai découvert bien après que Philippe Néri avait fait cette expérience en grand. Mais c'était déjà ma manière d'être proche du Seigneur. Alors ensuite, ma manière d'être proche des autres, c'est l'amitié surnaturelle, c'est-à-dire le sens de l'émulation, vouloir le meilleur de mes amis. Je crois pouvoir dire que le Seigneur m'a donné quelques amis depuis que je suis adulte, que j'ai gardés fidèlement, parce que nous recherchons à avancer dans le Seigneur, à être meilleurs. La vérité de l'amitié et l'émulation, monter ensemble et s'empêcher de descendre toujours. Ça, c'est une chose qui compte beaucoup. Alors que ce soit dans ma vie fraternelle à l'oratoire, ou que ce soit avec les laïcs dans la pastorale, mes étudiants et mes étudiantes, que j'aime beaucoup, et pour qui le service du cœur vaut autant que le service de l'esprit, dans une grande pudeur, mais chaque fois qu'on éclaire une intelligence, on sent bien qu'on fait monter un cœur vers une volonté plus forte, une volonté plus ferme. Je donne le cours sur la grâce. Quelle grâce de donner le cours sur la grâce. Parce que je vois que mes étudiants et mes étudiantes, au lieu d'apprendre seulement des concepts abstraits, il faut le faire, commencent à deviner l'action de Dieu dans leur propre cœur. Et en devenant plus lumineux, ils deviennent plus fermes dans la vie chrétienne. Alors cette émulation, je la vis aussi avec les étudiants et les étudiantes. Et puis en général, je dirais que cette amitié spirituelle est pour moi fondée toujours sur une amitié intellectuelle. S'entendre sur les mots, ne pas prendre trop vite ce que disent le langage des gens, accepter d'écouter avec patience. Nous venons d'en faire l'expérience à la Commission théologique internationale. 30 théologiens avec des langues différentes. Ça pourrait être la tour de Babel, mais en réalité, c'est la Pentecôte. Mais la langue de feu de l'Esprit-Saint à la Pentecôte, avant d'être la langue qui parle toutes les langues et qui adresse de plein pied l'apôtre dans toutes les régions du monde, cette langue de feu consume l'ego. Il consume le moi, cet attachement à soi-même, à ce qu'on est, à ce qu'on veut rester, au poids qu'on a devant les autres, etc. C'est quand même une langue de feu qui consume. J'aime beaucoup dans l'expérience de Matteo Ricci, ça a commencé pour lui par l'apprentissage du chinois. C'est une mort à soi-même, apprendre une langue aussi difficile. C'est être expatrié de soi. Pour moi, le corps que nous habitons, que nous sommes notre corps dans notre corps linguistique. Et vraiment, qu'un missionnaire puisse renoncer à sa langue, c'est vraiment un signe d'amitié presque kénotique. C'est une manière de renoncer à sa vie propre comme Jésus a fait. Voilà comment je vis, moi, un peu la proximité.
Pour terminer, comment est-ce que vous approchez la culture ? Avec quels yeux ?
Je crois qu'aujourd'hui, les arts sont pour les chrétiens un défi de vivre la plénitude de l'expérience du Christ et d'arriver à la modeler dans une plastique qui n'est pas nouvelle pour être nouvelle, qui est nouvelle parce que l'Esprit Saint est vivant et toujours nouveau. Et ça, voyez-vous, nous avons commencé tout à l'heure en parlant de la joie. Jamais la joie ne se recopie. Ce qui fait le cœur spacieux, large, c'est toujours un événement nouveau, que ce soit avec le Seigneur, que ce soit avec une bonne nouvelle, avec des amis. Ce qui fait le cœur spacieux, c'est la nouveauté de Dieu, qui lui vit dans l'instant éternel de son présent intensif, celui auquel nous communions quand nous recevons le corps du Christ. Nous prenons quelque chose de l'éternité. Et du coup, l'art, peu à peu, l'art trouve de nouvelles formes, ou plutôt les formes du nouveau se donnent à lui.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
Cette expérience de la Commission théologique internationale est vraiment d'abord un effort de volonté. Ce n'est pas du tout un cercle de grands esprits. C'est un cercle de disciples de Jésus qui, tout d'un coup, s'assemblent pour vivre dans une grande proximité pendant 5 jours. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que c'est une petite Pentecôte qui se recompose, là, avec la nouveauté de l'Esprit Saint. mais aussi tout un passé, toute une tradition que chacun porte en lui, de description de la foi chrétienne, de lexique, de vocabulaire. Mais entre le prêtre de Chine, une sœur américaine, un prêtre chilien, tout d'un coup on revit quelque chose de la Pentecôte. On se retrempe dans l'église assemblée à la Pentecôte, et chacun, nous allons retrouver nos tâches et puis ce rayon, comme je disais tout à l'heure, ce périmètre de proximité. Mais l'universel se met dans le particulier. Et ça, pour moi, c'était un évangile, une bonne nouvelle pour les familles, pour les couples. Une bonne nouvelle qui, à la fois, dit Dieu tout entier, le Dieu universel de toute l'histoire vient tout entier dans mon expérience de cette journée, de ce travail. Dieu vient avec toute sa lumière et toute sa force pour moi et pour ceux qui m'entourent, et en même temps, ça me permet de ne pas être tout à fait l'otage d'une mondialisation complètement abstraite. Mais ce n'est pas les instruments qui rapprochent. C'est le cœur qui s'ouvre pour être proche d'un cœur qui pourrait être loin de lui. Et ça, on vit ça dans un couple. Et tous les téléphones portables du monde, tous les internets du monde ne pourront jamais se substituer à la bonne volonté d'un cœur qui aime un cœur.